presque à se toucher. Si bien que lorsque un prêtre frappait l'une de ses marmites avec un gong, les vibrations se transmettaient d'une marmite à l'autre. Et le rôle des prêtres était d'interpréter le langage de ces marmites qui étaient censées être le langage des dieux. Et de communiquer donc aux gens qui venaient pour consulter les dieux, dans le cadre de cette échelle, n'est-ce pas, donner, prophétiser, le terme existait, mais un terme païen, n'est-ce pas, c'est-à-dire se faire l'interprète du langage des dieux, de la même manière qu'on va chez une cartomancienne pour qu'elle lise les cartes, voyez. Mais il se trouve aussi que, dans le cadre de cet exercice religieux diabolique, on parlait en langue. Il y avait aussi des parlers en langue qui entraient dans tout ce cadre-là. Alors, quand l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, si vous parlez les langues des anges et des hommes, mais que vous n'avez pas l'amour, eh bien, écoutez, vous êtes un airain qui résonne. Vous savez, immédiatement, les croyants pouvaient se pousser du coude et puis commencer à discuter. Donne-nous, ça dit quelque chose. Immédiatement, ils savaient à quoi ils avaient affaire. Et ce que Dieu voulait leur dire par l'illustration que l'apôtre Paul accordait. Alors nous avons vu l'apôtre Paul, Pierre. Aucune mention du parler en langue dans ces deux épîtres. L'apôtre Jean, aucune mention du parler en langue. Jude, aucune mention. Jacques, aucune mention. Dans le livre des Actes maintenant, vous avez trois mentions. Sur toute cette période tellement importante de l'Église primitive, vous avez trois mentions qu'il importe d'analyser dans leur contexte tout à fait particulier d'inauguration de l'Église de Jésus-Christ, tout d'abord au sein du peuple juif, acte 2. Chez les Samaritains, il n'est pas mentionné, mais il est question d'une imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, ce qui est une particularité. Mais inauguration ensuite dans acte 10, de l'Église de Jésus-Christ au niveau des païens, où il fallait qu'il y ait identité entre ce qui s'était passé à Jérusalem et ce qui se passe chez les païens, parce que jamais les judéo-chrétiens n'auraient accepté. D'ailleurs, ça n'a pas été sans mal. Et puis enfin, acte 19, avec les disciples de Jean, ce qui était encore à Éphèse, n'est-ce pas, ce qui était encore une situation tout à fait particulière, lié à un enseignement qui était celui de Jean le baptiseur, qui s'était arrêté là, alors qu'il fallait croire à Jésus-Christ qui était venu après, qu'il ne faisait qu'annoncer. Trois fois. Alors, il faut qu'il y ait dans nos vies, déjà le respect des proportions. Ce n'est pas l'essentiel. La Bible dit que ça passe à une toute autre place. Et je suis très frappé, on m'a passé ce livre de la prison à la louange, dans lequel, c'est vrai, il y a des bonnes choses, mais dans lequel, par exemple, il est intéressant de constater, à cause de la coloration de ce livre, j'essaye de trouver mes notes pour savoir à quelle page j'ai indiqué quelque chose, vous avez la hiérarchie des dons, qui est mentionnée dans ce livre. Alors, c'est page 53. Alors, il dit, c'est intéressant, « Avec attention, j'étudiais les instructions de Paul à l'église de Corinthe. Il dresse une liste des diverses manières dont le Saint-Esprit agissait alors à travers les hommes. Il parlait en langue, interprétait ses langues, exerçait des dons de guérison, de miracles, de prophétie, de sagesse, de connaissance, de foi, de discernement. » Vous remarquez que l'auteur de ce livre a tout simplement renversé l'échelle de valeur. Il le fait. Il commence par ce qui, dans son esprit, occupe beaucoup de place. Et nous sommes comme ça. Vous savez, notre langage nous trahit. Il m'est plus d'une fois arrivé de poser cette question dans le cadre d'une étude particulière. Comment l'homme est-il composé? Comment est-ce qu'on peut le définir? Et on me dit, l'homme est composé du corps, de l'âme, de l'esprit. Et 99 fois sur 100, nous commençons par le corps. Là où dans les Écritures, on commence par l'esprit. Alors après, on peut discuter sur l'esprit et l'âme. Je ne veux pas entrer dans cette question. Mais c'est pour montrer combien dans notre langage, nous exprimons ce qui occupe la première place dans nos vies. Et vous voyez ici, comme dans ce livre, une toute petite illustration, on commence par la queue et on finit par l'essentiel dans la pensée de Dieu. Alors nous pourrions prendre une multitude d'autres exemples dans ce domaine. Je pense à tout le monde des démons, tout ce monde de la possession, des liens occultes, où on passe d'une extrême à l'autre. Vous avez des croyants qui refusent de toucher à ces choses et de croire même qu'un croyant puisse avoir affaire avec ce monde des démons là, ou d'autres voient des démons absolument partout. Chaque fois que quelqu'un a un problème dans sa vie, ça signifie qu'il a un démon. Ce qui est facile d'ailleurs, on met ça sur le compte des démons, ça évite de faire un effort dans sa propre vie pour changer. Et on entre dans des domaines de dégâts terribles de cette manière. Moi je me souviendrai toute ma vie, et je pense mon épouse avec moi, lorsque nous étions dans notre ministère en Bretagne, et que nous venions de terminer une étude biblique dans une annexe à 25 km de là, chez un cher frère qui avait une bonne quarantaine d'années, qui était aveugle, qui marchait vraiment bien avec le Seigneur, qui rendait un témoignage merveilleux, surtout dans sa situation, et qui a attendu que tout le monde ait quitté la salle, ça se passait d'ailleurs chez lui, dans son logement, et j'étais resté là aussi en dernier, et qui m'a accroché au moment où j'allais sortir, pour me dire, écoutez frère, j'ai une question à vous poser. Et j'ai vu immédiatement, non pas dans son regard qui était mort, mais à sa physionomie générale, j'ai vu qu'il vivait quelque chose de profondément douloureux. Et il m'a dit, mais frère, j'aimerais que, honnêtement, vous me disiez si je suis aveugle parce que j'ai un démon. Alors moi, je l'ai regardé, et puis je lui ai dit, mais frère, mais pourquoi est-ce que vous me posez une telle question? Il m'a dit, mais tout simplement parce que telle personne au service du Seigneur me l'a affirmé ces derniers jours. Je suis aveugle parce que j'ai un démon. Alors, j'ai eu un entretien avec lui pour le rassurer, pour essayer déjà de fermer la brèche. C'était une plaie terrible dans sa vie. Mais savez-vous que le plus douloureux, c'est que cet homme de Dieu, et je n'hésite pas à l'appeler ainsi, a été tellement blessé que peu à peu, dans son hypersensibilité due déjà à sa condition, il s'est refermé sur lui-même. Et il est mort 2 ou 3 ans plus tard, dans des conditions profondément douloureuses. Alors qu'il avait rendu vraiment jusque-là un si beau témoignage. Et ce n'est pas le seul. Combien de fois dans la relation d'aide, on récolte à cause d'extrémisme des personnes qui ont été passées à la moulinette, dont il faut récupérer les morceaux, parce qu'on a asséné de ces coups de masse ou de massue, n'est-ce pas, au nom de vérités mal comprises, mal interprétées, où l'on devient des apprentis sorciers, où on pousse à l'extrême des enseignements, leur donnant beaucoup trop de place, ou ne voyant pas dans les Écritures les nuances. On ne s'improvise pas médecin des cœurs non plus. Alors on pourrait continuer, hein, j'ai tant et tant d'autres domaines, les visions, les songes, les prophéties particulières. Moi je veux y croire. Je ne suis pas systématiquement fermé à la souveraineté d'un Dieu qui, si vraiment, dans certaines circonstances particulières, le juge nécessaire, accorde un songe, une vision, un message tout à fait particulier. Mais je constate tout d'abord une chose, c'est qu'il y a une règle de proportion ici dans les Écritures, et qu'il y a des manifestations particulières à certaines époques dans les Écritures. Et que même le ministère de l'apôtre Paul n'a pas été marqué à toutes les époques de ce ministère, de ces manifestations. Loin de là. Et puis je constate par exemple aussi, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans sa souveraineté, accorde des grâces tout à fait particulières et en accord avec la parole de Dieu à des hommes et des femmes qui sont en dehors de lui, de Christ, ou qui sont déjà en Christ, lorsqu'ils vivent des conditions particulières qui, je dirais, nécessitent ces grâces. Nous avons voyagé dans les pays de l'Est, et surtout en Pologne, pour donner de l'enseignement. Nous avons vécu en Pologne ce que nous n'avons pas vécu ailleurs. Je suis allé à plusieurs reprises ces dernières années, je vais y repartir, dans plusieurs pays africains, Madagascar et d'autres pays parmi les plus pauvres du monde, et aussi des pays à dominante marxiste, où j'ai vu des dimensions de grâce de Dieu extraordinaire, mais qui correspondait à la situation particulière de ces gens. Quand on n'a pas la possibilité d'avoir 10 Bibles dans sa bibliothèque et que l'une coûte le salaire d'une année, ou que l'on est pourchassé le jour où on a la Bible entre les mains, vous comprenez que Dieu, dans sa grâce, a des faveurs particulières à l'endroit de ceux qui le cherchent. Vous comprenez que vous pouvez toucher le miracle de Dieu du doigt. Et on sait qu'en Afrique se sont passées parfois des choses extraordinaires dans l'histoire de certains pays, là où des hommes et des femmes cherchaient et n'avaient pas les moyens que nous avons. Mais pourquoi voulez-vous que Dieu multiplie des grâces de ce genre alors qu'il nous a donné, à nous, tant et tant de moyens, avec sa parole, avec l'exercice des ministères, avec nos imprimeries, etc., n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous qu'il nous accorde en long et en large, avec une générosité inouïe, ce dont nous n'avons pas spécialement besoin? Peut-être sommes-nous des paresseux, simplement, qui ne voulons pas utiliser des moyens que Dieu nous donne. Moi, je constate qu'à travers les Écritures, vous avez une progression dans la révélation de Dieu. C'est vrai qu'il fut un temps où dans l'histoire de l'humanité, même dans l'histoire d'Israël, Dieu parlait avec des moyens que, je dirais, on utiliserait pour des enfants. Justement, le domaine des théophanies, ces apparitions particulières, ces représentations de Dieu, le buisson ardent et tant d'autres choses, n'est-ce pas? Et justement, des visions, des révélations toutes particulières, tangibles, ont appartenu par excellence à une certaine époque de la révélation de Dieu, où les hommes n'avaient pas entre les mains une révélation écrite, où ils avaient peut-être un tout petit embryon. Et puis on remarque que plus on approche de la personne de Jésus-Christ, sa venue sur la terre, dans la révélation écrite, plus on approche du temps des prophètes, de ces prophètes qui nous ont laissé leurs écrits, plus ces dimensions-là s'estompent. Parce que le patrimoine de l'homme est de plus en plus riche, de plus en plus précis, la révélation écrite est de plus en plus importante, n'est-ce pas? Et donc il faut que de plus en plus l'homme gère le capital que Dieu lui a donné dans sa parole. Alors pourquoi? Pourquoi vouloir absolument aujourd'hui dans nos pays? Pourquoi vouloir absolument ne vivre que de miracles exceptionnels? Nous avons, je ne sais pas combien de médecins pour 100 habitants en France, mais c'est... Pourquoi vouloir absolument nous passer du monde médical pour ne croire qu'à une guérison miraculeuse par l'intervention directe de Dieu? Moi, je comprends que dans certains pays du monde, et même à la faveur de certains réveils, il y ait des multitudes de guérisons. Allez voir chercher un médecin. Courez après un médecin. Voyez les problèmes qu'ont les missionnaires lorsqu'ils doivent se soigner sérieusement ou lorsque telle femme missionnaire doit accoucher. Alors, on comprend que là, le Seigneur intervient. Et on comprend que peut-être dans notre vie, à certains moments de notre vie, nous l'avons expérimenté, mon épouse et moi, dans nos vies, nous avons vu des interventions tout à fait particulières du Seigneur, en dehors des médecins, parce que Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Il voulait nous enseigner qu'il est souverain et que si nous dépendons de lui, nous ne devons pas croire qu'il y a une seule manière d'aller vers une guérison. Mais que Dieu a plus d'une corde à son arc et que notre dépendance signifie que quand je suis malade, je ne dois pas dire je vais chez le médecin. Je dois dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dépends du Seigneur. Et dans telle situation, de manière claire et à partir d'un bon sens, d'une sagesse, ou si c'est nécessaire, Dieu peut le dire très fortement à mon cœur, me le dire par quelqu'un s'il le fallait, il me dira va chez le médecin. Là où parfois Dieu ferme totalement des portes. Je me souviens d'une année où nous étions en train de faire un camp et... Non, ça c'est un autre cas où nous étions dans une situation extrêmement grave et où je me suis précipité sur le téléphone pour téléphoner et tous les numéros de téléphone de médecins, de spécialistes, etc. étaient bloqués. Pas moyen d'atteindre et c'était une situation extrêmement grave. Et nous n'avons plus eu qu'une solution, c'est de... prier, je me souviens, m'être agenouillé au pied du lit et puis avoir dit, écoute Seigneur, si tu as bloqué toutes les issues, je ne sais pas quelle est ta volonté, mais Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, interviens. Et Dieu est intervenu. Bon, il aurait pu intervenir d'une autre manière. C'est Johnny qui a écrit ceci dans un de ses livres. Devant l'idée extrême que Dieu veut guérir tout le monde, nous avons été nombreux à réagir exagérément et à rejoindre le camp opposé qui déclare Dieu ne veut jamais guérir personne. Voyez cette tendance aux extrémismes. Et un homme de Dieu qui a écrit un ouvrage sur la prière que nous avons en français, donc Halesby, a écrit ceci. Seigneur, si cela peut servir à ta gloire, guéris-moi sur le champ. Si cela doit te glorifier davantage, guéris-moi petit à petit. Si cela doit te glorifier encore plus, eh bien que ton serviteur reste malade pendant un temps. Et si c'est ce qui doit te glorifier le plus, amène-moi au ciel avec toi. Ça, c'est une attitude juste, qui nécessite de ma part une dépendance permanente de Dieu. Et voilà ce que nous voulons évacuer, hein? Nous voulons évacuer cette nécessaire dépendance de notre Seigneur de manière continuelle, parce que dans notre nature, nous sommes des êtres terriblement indépendants. Ce qui a perdu l'homme dans le jardin d'Éden, c'est cet esprit d'indépendance qui porte un autre nom, c'est une des formes de l'orgueil. Cet esprit d'autonomie qui voudrait pouvoir se suffire et se dépatouiller lui-même et organiser lui-même son propre salut. Alors, notre plus grand problème en tant que disciple de Christ, c'est l'école de la dépendance de Jésus-Christ. Alors, on préfère bâtir des équations, des schémas. Hein. Toute maladie égale péché, Dieu doit toujours guérir. Si nous ne sommes pas guéris, nous sommes des incrédules. Alors, ça va très loin. Je me souviens avoir été appelé, je vais devoir terminer, dans une église. On m'avait demandé bien des mois avant de traiter un thème. Et dans les jours qui ont précédé mon départ dans cette église, de manière extrêmement nette, mais très nette, Dieu m'a interpellé en me disant « Maurice, tu ne donneras pas ces études qui t'ont été demandées dans cette église. » Ce que je n'aime pas faire, hein, parce qu'on a l'impression de donner un petit coup de couteau dans le dos de l'église qui nous a invités. Donc j'ai renoncé et de manière très claire, le Seigneur m'a... orienté vers cette série d'études qui était beaucoup plus embryonnaire que maintenant. Je suis donc allé dans cette église et dès que le serviteur m'a pris dans sa voiture à la gare, je lui ai dit, tu sais, ne t'étonne pas, je suis un peu gêné vis-à-vis de toi, mais je n'ai absolument pas la liberté de traiter le thème qui a été annoncé. Et clairement, Dieu m'a indiqué un autre thème, l'a corroboré de toutes sortes de manières, c'est pas une petite illumination, loin de là, on le verra. Dans la suite cet après-midi, je vais donc traiter ce thème. Ah, mes amis, j'ai compris pourquoi Dieu avait changé le message. Je ne connaissais pas du tout cette communauté et sa circonstance présente. Mais il y a eu précisément une division dans cette communauté au niveau de la guérison et de la maladie. Et cette communauté s'est partiellement coupée en deux. Simplement parce que quelqu'un n'avait pas été guéri d'un cancer. et qu'on s'était même levé dans cette église le dimanche matin, juste après le décès de la personne en question, pour prier publiquement, « Seigneur, s'il te plaît, et merci par avance, nous croyons que tu vas ressusciter cette personne d'entre les morts. » Alors, vous imaginez le trouble qui est intervenu. Et malgré cette série d'études, qui a peut-être aidé certains croyants, l'Église finalement s'est divisée. Et je vous assure, ça m'a fait une grande peine, parce que j'avais le sentiment que Dieu voulait encore lui donner une occasion de réfléchir à la chose, de manière à éviter cette division. Alors nous pourrions continuer ici, ainsi, dans ce domaine. Je pourrais vous poser la question, qui d'entre vous a eu une conversion très émotionnelle, vraiment claire, nette, sans bavure, vous savez, où on quitte une situation extrêmement difficile pour se retrouver dans la lumière? Il y en a, moi, je pense que vous êtes de ceux-là. Hein? Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent lever la main, qui ont eu vraiment une conversation plus ou moins spectaculaire, mais très tranchée? Hein? Il y en a plusieurs d'entre nous. Maintenant, est-ce que je peux poser la question, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont eu une conversion à Jésus-Christ calme, lente, dans le temps, au point qu'ils n'ont même pas été capables pendant un certain temps de la situer, jusqu'à ce qu'au jour c'est devenu clair. Vous voyez ? Bon, est-ce qu'on va se diviser ? Eh mais oui ! Mais l'extrémisme, c'est là encore ce schéma qui fait, n'est-ce pas, que, bon, il faut absolument que tout le monde passe par un certain type de conversion. Et si tu n'es pas passé par ce type de conversion-là, tu peux raconter ce que tu veux, tu n'es pas converti. Vous voyez, un petit test. Mais ceci existe. Je vous donne des exemples de mentalité actuelle. Vous voyez, parmi d'autres. Bon, nous allons devoir nous arrêter là. Il y aurait tant de choses à dire. J'ai mis en conclusion, l'extrémisme est un système qui me permet de faire l'économie de la dépendance constante de Dieu, de la communion intime, de la recherche de sa pensée. Et comme je l'ai déjà dit, l'extrémisme flirte avec le légalisme, conduit à la sclérose de la tradition, conduit aussi à l'illuminisme, à la secte et à l'hérésie plus généralisée. C'est une planche savonnée. Voilà, nous avons vu l'extrémisme doctrinal. Nous dirons quelques mots cet après-midi sur le christianisme centré sur l'expérience, ce qui est illuminisme et qui peut être faux mysticisme. Ô Seigneur, Colossiens 2, et plus particulièrement le verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18. Que personne sous prétexte d'humilité, sous une apparence ou sous prétexte d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, nous prenons le verset 19 aussi, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Nous avons donc consacré notre avant-dernière étude, ce matin, à l'extrémisme doctrinal et à ses conséquences. Et nous voulons passer un moment dans cette dernière étude à évoquer les dangers d'un christianisme centré sur l'expérience ou sur les expériences. À partir de cette expression et de son contexte, il s'abandonne à ses visions. Il s'abandonne à ses visions. Il n'est pas nécessaire que nous passions du temps à réexpliquer largement le contexte immédiat. Nous nous y sommes arrêtés lorsque nous avons évoqué les philosophies trompeuses. Vous vous souvenez de cette échelle qui était sur le tableau derrière moi, et les visions faisaient partie de tous ces moyens permettant, par le biais des anges, des dominations, des autorités, des trônes, des principautés, de ce Jésus-Christ, qui n'est pas totalement Dieu, qui permettait par ce moyen peu à peu de se dégager du carcan de la matière pour s'élever progressivement jusqu'à ce pléroma, cet abîme de lumière divine. C'était un des moyens, notamment dans les cultes à mystère. Et bien entendu, essayer de faire pénétrer ce message dans l'église de Colosse risquait d'entraîner un mysticisme dangereux, une recherche d'expérience pour entrer en contact sensible avec ses intermédiaires. Une forme d'escalade vers le ciel à coup d'expériences mystiques, de visions, d'extase, de révélation. Et c'était très tentant à cause du climat volcanique. Vous vous rappelez, nous avions étudié même le terrain si favorable à ce genre d'approche. Alors j'ai eu aussi l'occasion de dire au cours des études que ce genre d'approche est très tentant pour les croyants de notre temps. Je ne vais pas redévelopper tout cela, simplement vous rappeler que c'est tentant par réaction contre le christianisme froid, rigide, cadavérique, d'une orthodoxie morte. On a fréquemment constaté que des croyants, tout comme des conducteurs d'église, des pasteurs, qui avaient navigué pendant un certain temps, de par leur éducation, dans un milieu froid, d'orthodoxie morte, ou presque éteinte, lorsque vraiment ils étaient sensibilisés à la nécessité de vivre une vie d'une autre, une vie spirituelle d'une autre dimension, partaient carrément à l'autre extrême. Ceci se vérifie, on le constate dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ actuellement en France, où on voit, par exemple, un certain nombre de pasteurs qui ont vécu, par exemple, dans les milieux de la réformée, qui ont souffert dans leur passé d'une certaine théologie, d'une certaine expression d'Église, et puis qui sont carrément partis, parfois très loin, à l'autre extrême. C'est une tentation. Moi-même, je l'ai connue puisque j'ai commencé ma formation pour le service de Dieu dans le cadre des églises de réformées. Et moi aussi, j'avais beaucoup soif de marcher beaucoup plus avec le Seigneur. Et c'est ce qui fait que même en étant converti, à l'âge de 11 ans, lorsque je suis entré à Lyon dans une école préparatoire de théologie protestante, ma soif de vivre une vie plus faude, plus enthousiaste et plus consacré au Seigneur, m'a amené justement à aller voir ce qui se passait dans les églises de Pentecôte. Et je pense que mon histoire est celle de beaucoup d'autres. Et Dieu m'y a bédi par certains côtés au moment où je commençais à me rendre compte par d'autres qu'il y avait des choses qui peut-être étaient à revoir. Nous avons souligné aussi que nous vivons dans un monde dur, froid, technique, très déshumanisé, un monde de béton, d'ordinateurs, de techniques, oui, et que tout cela, avec la banalisation du crime, le nivellement des réactions face aux choses les plus atroces par le biais des médias et de la télévision en particulier, la dislocation de la famille et tant d'autres facteurs conduisent à un déséquilibre affectif profond, à une soif de chaleur, à une soif d'amour, d'expériences émotionnelles. Nous vivons comme jamais dans un contexte qui rend d'autant plus aigu le besoin émotionnel. Et puis, il faut ajouter ceci, ça nous ne l'avons pas encore dit, c'est qu'il faut souligner que dans le christianisme se trouve une part d'émotivité, de sentiment, de sensibilité déjà grande, parce que Jésus-Christ s'occupe de la totalité de la personne, donc aussi de ses dimensions émotionnelles. Elles ne doivent pas être tenues à l'écart. Et puis, nous l'avons souligné, donc je n'insisterai pas, il y a la montée de la recherche du bonheur et du plaisir, l'appel à des sensations toujours plus fortes, tout simplement parce que les sens ne sont jamais satisfaits. Et vous savez combien on est en train d'aller loin dans ce besoin de vivre des sensations fortes, que ce soit dans le domaine des loisirs, on va très loin, le saut à l'élastique, qu'est-ce qu'on ne fait pas, n'est-ce pas ? On se demande ce qu'on va inventer dans les temps à venir. Et c'est un domaine dans lequel on ne peut pas s'arrêter, parce que la Bible le dit, hein, l'œil ne se rassasie jamais de voir, l'oreille ne se rassasie jamais d'entendre, notre être a besoin de toujours plus fort. Alors on peut aller ainsi très 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 loin. Et il y a une sorte, on exacerbe à l'heure actuelle le besoin dans ce domaine. Et tout cela entraîne très vite un mépris de la doctrine, nous l'avons dit, nous le redisons, et un besoin de débordement émotionnel, le besoin de sentir, le besoin de pouvoir mesurer par l'émotion la réalité de notre christianisme, puisque selon ce que disait Jésus-Christ dans Jean au chapitre 4, dans l'entretien avec la femme samaritaine, ou dans Jean au chapitre 7, quand il est question du fait d'être rempli du Saint-Esprit et de déborder au dehors, eh bien, puisque le Seigneur l'a dit, il doit y avoir véritablement un débordement, et ça doit se traduire de manière émotionnelle. Et on est actuellement dans une période où dans l'Église de Jésus-Christ, on a cette tendance à l'hypertrophie, à donner une place très très importante à l'expérience, à ce qu'on ressent. Et je suis frappé au fil de ces années, même ici d'ailleurs, même dans notre camp famille, de voir les problèmes qui se situent au niveau émotionnel. Ce besoin de trouver une assise à cause d'un christianisme que l'on centrera trop facilement sur les émotions. Alors, à partir de ces quelques remarques d'introduction, nous allons aller plus loin, et j'aimerais souligner tout d'abord qu'un des problèmes du christianisme centré sur les expériences, ce sera le premier point que nous allons fortement développer, est ce que j'appelle la tendance au subjectivisme. Subjectivisme. Expliquons ceci. Celui qui est très centré sur les expériences, ou lorsqu'on appartient à un type d'église qui donne aux expériences une place très importante, on est tenté d'établir arbitrairement une échelle de degrés de spiritualité qui sont basés sur mon expérience propre. Le grand point de repère de la spiritualité des autres devient alors le moi. Et il faut reconnaître que nous vivons actuellement, d'une manière toute particulière au niveau de l'Église de Jésus-Christ, un christianisme qui est très anthropocentrique. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui est très anthropocentrique, c'est-à-dire très centré sur le moi, sur l'homme. Et c'est dangereux. Nous sommes appelés à vivre un christianisme christocentrique, théocentrique, avec un point de repère qui ne soit totalement extérieur, objectif, et qui soit sûr, fiable, qui ne change pas continuellement, qui ne soit pas comme des sables mouvants, comme du mirage. Et nous savons que le seul point de repère solide, fiable, totalement objectif, c'est la parole de Dieu, dans la mesure aussi où nous respectons les règles d'interprétation fondamentales des Écritures, parce que nous avons vu comment on peut manipuler les Écritures et leur faire dire absolument ce que nous avons envie qu'elles disent. Et nos échelles de valeurs peuvent être totalement fausses. Alors nous en avons eu une illustration dans le problème des Corinthiens au niveau des dons spirituels. Ceux qui semblent avoir prévalu d'une manière toute particulière chez les Corinthiens, c'était le spectaculaire, c'était l'émouvant, ce qui remuait les sentiments, ce qui développait des émotions fortes. C'était, semble-t-il, aux yeux des Corinthiens, plus spirituel et valable que la connaissance, que la prophétie dans son sens large, que le discernement. Tout simplement parce que ces dimensions font aussi appel à l'intelligence, à la réflexion et à l'utilisation de la matière grise. Et je vous ai expliqué, donc je ne vais pas y revenir, comment les Corinthiens étaient certainement très marqués, notamment par l'enseignement de Platon. Platon, d'ailleurs, je vous le signale au passage, croyait à la réincarnation. C'est intéressant. Alors, pour Paul et pour celui qui l'inspirait, pour le Saint-Esprit et pour Dieu lui-même, et j'aime utiliser cette expression, l'inspiration, être inspiré quand on écrit, quand on parle, quand on enseigne, quand on travaille pour le Seigneur, quand on témoigne, inspiration rime en partie avec transpiration. Et c'est important, vous allez le voir, parce que nous allons prendre notamment des extraits de ce livre, de La prison à la louange, pour montrer ce mélange de juste et de faux et ce déséquilibre dû à la part trop belle laissée au domaine affectif. Et nous avons alors dans les Écritures de nombreux exemples de l'équilibre spirituel dans la marche avec le Seigneur, où foi et intelligence, par exemple, ne sont pas incompatibles. Nous pourrions prendre des dizaines et des dizaines d'exemples. Par exemple, dans Actes 10, versets 17 à 19, nous voyons comment Pierre reçoit une vision, et il en avait bien besoin parce que sa mentalité devait être transformée par rapport au problème de l'intégration des païens dans le corps de Christ. C'était quand même un juif, et il fallait que sa mentalité soit transformée. Il est intéressant de voir comment se termine d'ailleurs le chapitre précédent, le chapitre 9. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Et Dieu le préparait déjà de cette manière, parce que la profession de corroyeur était une profession assez honnie des Juifs. C'était une profession impure. Et il semble déjà que là, le Seigneur était en train d'entamer sa mentalité. Puis ensuite, vous avez donc cette vision qui se reproduit. Et au verset 17 à 19, après que trois fois cette vision se soit reproduite, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, ça veut dire qu'il était en train d'y réfléchir. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, vous voyez, c'est un homme qui va utiliser ses facultés pour essayer de comprendre, d'analyser. Et d'ailleurs, il y a d'autres expressions tout au long de la suite du texte qui montrent que l'apôtre Paul utiliser toute sa réflexion. Si vous allez dans Actes au chapitre 12, vous avez une association très très étroite entre le caractère miraculeux de l'intervention de Dieu, hein, lorsque Pierre est en prison, et puis vous savez comment cela se passe, les chaînes qui tombent, l'ange qui dit verset 8 « Mets ta ceinture et tes sandales », l'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi », au point que Pierre ne sait pas très bien où se situe le réel et l'imaginaire. Lorsqu'ils passent la première garde et la seconde, ils arrivent à la porte de fer qui menait à la ville et elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et puis une fois dans la rue, l'ange quitte Pierre. Alors jusque-là, tout avait été extraordinairement miraculeux. L'ange avait été même pointilleux, les moindres détails avaient été indiqués. Et puis là, dans la rue, en pleine nuit, il se retrouve, Pierre, largué, hein, tout seul. Et s'il avait été déséquilibré dans sa foi, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Regardez la suite du texte. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi. Premièrement, il commence pas par chanter un grand cantique et une kyrielle d'Alléluia pour réveiller tout le quartier. Il réfléchit et il se dirige vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Où pourrais-je bien aller ? Il ne fallait pas aller n'importe où dans sa situation. Il frappa à la porte du vestibule, une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter, elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, alors elle était enivrée, hein, manifestement, il y avait un problème de son côté à elle. Elle court annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Et cependant, Pierre continuait à frapper. Il devait se dire « Pourvu qu'il redescende assez vite sur terre. Hein. » Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Et regardez là le bon sens de Pierre. Pierre, le rayant de la main, fait signe de se taire. Chut. C'est dangereux, hein. Je suis dans une situation extrêmement délicate. Si la marée chaussée passe, hein, simplement, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Vous voyez, un homme pleinement en possession de toutes ses facultés, qui vient de vivre un événement ou une succession d'événements dans un bref laps de temps de caractère tout à fait miraculeux, extraordinaire, du surnaturel de Dieu le plus évident, mais qui pourtant fait extrêmement attention. Et là, je dirais que souvent, quand nous vivons des événements tout à fait particuliers, où nos émotions sont secouées, nous manquons d'équilibre. Nous avons de la peine à redescendre et puis à utiliser toutes nos facultés pour prendre certaines décisions. Prenez le début du livre de Josué, et je dois dire que là, cet auteur pentecôtiste, qui est Donald G., m'a fait beaucoup de bien, parce qu'il évoque à un moment donné, dans un article, le pèlerinage du peuple d'Israël, et il dit, oui, le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, durant ses 40 ans, a connu le surnaturel de Dieu de manière absolument extraordinaire. C'était fantastique, les miracles qui ont eu lieu dans ce désert. Mais du jour au lendemain, lorsque le Jourdain a été franchi, ça a été fini. Les Juifs auraient pu faire une nuit de prière en disant « Maintenant Seigneur, hein, tu vas nous donner la nourriture pour demain ». Non, il fallait du jour au lendemain se mettre à cultiver. Plus question de la manne, plus question de plats servis à profusion, sans que l'on ait à travailler. Non, on était désormais dans une terre où il fallait travailler. Il y a, dans le plan de Dieu, des périodes où Dieu, dans sa souveraineté, est le Dieu de miracles extraordinaires. Et puis, il y a le temps aussi où il met à notre disposition tout ce qu'il nous faut et nous dit, ben maintenant, tu retrousses les manches et tu travailles. Prenez la résurrection de Lazare. Il y avait une chose que personne ne pouvait faire, c'était ressusciter Lazare. Ça, le Seigneur Jésus l'a fait. Mais ensuite, permettre à la momie impressionnante d'être délivré de ses liens, cela ne nécessitait pas un miracle. Et Jésus dit, bon, ben maintenant, allez, déliez-le, et puis laissez-le aller, parce que sinon, dans quelques instants, il va s'écrouler, il va mourir. Vous voyez, l'équilibre, et c'est continuel dans les Écritures. Vous avez ce mariage de l'extraordinaire de Dieu avec l'utilisation de toutes nos facultés. Et ça, c'est une chose que nous avons si facilement tendance à oublier. C'est un prédicateur du début du 19e siècle, Charles Siméon, qui disait ceci, « Pour parvenir à la connaissance de Dieu, il nous est demandé d'allier notre dépendance de l'Esprit de Dieu à notre recherche personnelle. Ne séparons donc pas ce que Dieu a uni. Et nous devons nous souvenir que Dieu ne fait pas de miracles inutiles. J'ai toute une série, tout un séminaire qui s'intitule « L'audace et le bon sens de la foi », dans lequel je pars de 1 Samuel 17, cette histoire bien connue de l'affrontement entre le berger en culotte courte, dirions-nous aujourd'hui, David, et le géant Goliath. Et vous savez que c'est une histoire fantastique qui a illuminé le cœur et l'esprit de nombreux enfants à l'école du dimanche, et qu'on lit et qu'on relit avec un plaisir évident. Et j'ai été très frappé en creusant davantage cette histoire et puis en voyant tout ce que la Bible dit qui va dans le même sens, de voir que finalement, le miracle n'est pas là où on le place en général. En général, on considère comme quelque chose d'extraordinaire que ce gringalet de David ait pu remporter une telle victoire contre cette armoire à glace qui faisait, ça dépend de la valeur de la coudée et de l'empan, parce qu'il y a plusieurs valeurs possibles, mais peut-être jusqu'à près de 3 mètres de hauteur, n'est-ce pas ? Alors on est impressionné, hein, le petit bonhomme, le grand, et c'est le petit qui gagne. C'est ce qui frappe. Or, en réalité, ce qui frappe, c'est sûr qu'il y avait un courage évident chez David, mais il avait un bon sens extraordinaire. Et en fait, le miracle, c'est que Dieu, dans sa grâce, n'ait pas permis que sa main tremble quand il a tiré le caillou, et que le caillou ait fait mouche du premier coup. Ça, c'est le miracle. En réalité, tout le reste appartient au bon sens d'un homme qui n'était pas, dont les méninges n'étaient pas paralysées par l'incrédulité. Vous savez, le grand problème dans l'armée de Saül, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le problème de la complicité de l'entourage. Vous savez, quand vous avez plusieurs personnes qui ont peur, même les plus courageux finissent par avoir peur. L'inverse peut être vrai aussi. Donc, le jeune David, qui était quand même déjà aguerri parce qu'il avait vécu au désert, est tout surpris parce qu'il peut reconnaître dans cette armée d'Israël des hommes qui sont d'anciens bergers, qui avaient l'habitude d'utiliser la fronde. D'ailleurs, il y a des textes qui nous montrent qu'il y avait dans les compagnons de David plus tard des hommes qui étaient capables de viser, même de la main gauche. Il y avait des hommes d'élite là-dedans. Et pourtant, leur ménage était complètement paralysé par la peur. Et lui, qui regardait à l'Éternel, qui était centré sur le Seigneur, et qui était donc indigné de voir que le peuple de Dieu, des hommes aussi aguerris, soient capables d'avoir peur alors que l'Éternel était là, lui n'avait pas les méninges paralysés. Alors finalement, il a utilisé son bon sens. Quand Saül lui propose et lui impose pratiquement son armure, alors il commence avec déférence, avec respect, par enfiler l'armure de Saül, il marche un peu dedans, et au lieu de bêtement, par orgueil, ne pas vouloir se départir de cette armure, parce que c'était quand même un sacré honneur de porter le complet veston de François Mitterrand de l'époque, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, non, il a l'honnêteté et l'humilité de reconnaître qu'il est mal dans sa peau. Il aurait été battu s'il était resté dans cette armure. Mais non, il a simplement l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas son don à lui. Il n'a pas le don, le charisme d'un guerrier. Il n'est pas assez solide pour porter cette grosse armure qui va l'amener à se traîner, ça va l'handicaper. Il dit non, j'ai reçu un don de berger, pour le moment, il y en aura peut-être d'autres qui viendront après, et plus tard, il a été aussi un valeureux guerrier, pour le moment, j'ai un don de berger, je vais travailler avec mon don de berger. C'est du bon sens. Et alors, il va utiliser toutes les capacités, toutes les qualités que Dieu lui a données en faisant de lui un berger, et toute son expérience, pour mettre le maximum d'atouts de son côté. Comme dans la spéléo, hein. Et il va aller au torrent en prenant un bâton. Il se méfie. Il est prudent. Soit parce qu'une bête peut surgir, hein, on sait qu'il y avait des bêtes sauvages, il peut avoir un problème, donc il a son bâton. Et puis il a une idée derrière la tête. Il a une idée face à Goliath. Parce qu'il sait que Goliath, c'est un véritable soldat qui aime les armes, hein, les instruments pour se battre. Alors son bâton, C'est un attrape-nigo. Et alors là, son bâton en main, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout son temps. Il cherche les cailloux, pas n'importe lesquels. Il cherche des galets qui aient été bien polis dans le torrent, n'est-ce pas? De manière à ce que ça vole vite, loin, sans dévier. Et puis je pense qu'il a jeté un coup d'œil dans l'armée, il a dit, oh oui, je sais, Goliath, il a des copains, hein, et il y en a même sa famille. Et c'est vrai que Goliath avait des copains, et il y avait tout un groupe là, plus tard, dans sa vieillesse, David et d'autres ont eu affaire à toutes sortes de géants qui étaient du même calibre. Alors il a dû repérer, il a dit, oh, un, deux, trois, oulala, si jamais je le descends lui, et puis que ses copains, ils se mettent en colère, hein, il vaut mieux que j'ai de la réserve. Et puis peut-être, je peux manquer le premier coup. C'est-à-dire qu'il n'a pas confondu la présomption de l'orgueil avec le bon sens de la foi. C'était important, ça. Alors il revient sur le terrain avec son matériel, ses cailloux soigneusement choisis, et puis donc il va se mettre à proclamer la victoire de Dieu sur Goliath. Et Goliath va manifestement non pas s'intéresser à sa fronde, mais à ses bâtons. Hein. Tu viens avec moi, hein, vers moi avec ton bâton. Il est obnubilé par le bâton. Et il ne voit pas que David a autre chose en tête. Puis alors le texte est très intéressant, c'est fantastique ce texte. Il est dit littéralement que Goliath se mit en branle. Vous savez, c'est comme une de ces grosses machines. Puis il avance lentement avec son serviteur là, qui porte les engins lourds. Hein. Et puis le texte dit qu'au même moment, David court à sa rencontre. Complètement libre dans ses mouvements, presque une petite danseuse. Hein. Et puis voilà, et ils vivent. L'audace et le bon sens de la foi. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ce texte, mais qui montre l'équilibre, n'est-ce pas, dans la vie déjà de David à cette période, qui mettait vraiment toutes ses facultés de réflexion, de bon sens au service de Dieu. Et qui acceptait de travailler simplement à l'intérieur des dons que Dieu lui avait confiés. Je trouve que c'est si beau, si bienfaisant pour chacun de nous aujourd'hui. Je vous ai donné envie de lire 1 Samuel 17, hein, parce que c'est fantastique. Regardez ce que j'ai sous les yeux, c'est tiré d'un mensuel que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité. Il est profane, hein, ce mensuel, mais c'est intéressant. Pendant une inondation, un certain Dupont est assis sur le toit de sa maison. Il a déjà de l'eau jusqu'à la cheville quand arrive un canoë. « Je vais vous évacuer !» lui crie le sauveteur. « Non merci !» répond Dupont. « J'ai confiance en Dieu, il me sauvera !» L'eau lui monte maintenant jusqu'à la ceinture quand passe une vedette. « Je vais vous évacuer !» lui crie le sauveteur. « Non merci !» répond Dupont. « J'ai confiance en Dieu, il me sauvera !» L'eau monte toujours, elle a atteint son menton quand il aperçoit un hélicoptère. « Attrapez cette corde !» lui crie le sauveteur, « je vais vous hisser !»« Non, merci !» répond Dupont, « j'ai confiance en Dieu, il me sauvera !» Après avoir tenté de surnager plusieurs heures, Dupont se noie, il se présente au paradis s'attendant à une récompense, mais commence toutefois par reprocher au Créateur de ne pas l'avoir secouru. « Moi !» s'exclame le Seigneur, « moi qui ai envoyé deux bateaux et un hélicoptère !» C'est dans un mensuel qui n'a rien à voir avec l'évangile. Peut-être que certains peuvent deviner d'où ça peut sortir, d'ailleurs. Ce qui a fait dire à cet homme de Dieu, Tozer, une petite dose de refus de croire est aussi nécessaire que la foi pour le bien-être de nos âmes. Nous ferions bien de cultiver un brin de bon scepticisme. Il nous éviterait souvent de nous embourber dans des zones marécageuses. Ce n'est pas tragique de douter de certaines choses. Cela pourrait l'être de croire toutes choses. Les chrétiens sont appelés à être des hommes de foi, mais non des hommes crédules. De quoi nous faire réfléchir quant à notre conception de la foi. Conclusion concernant ce premier point important. Et j'y reviens, nous nous répétons l'importance d'aller toujours au seul maître étalon objectif, la parole de Dieu, pour mesurer la valeur, la justesse de notre piété, La vie chrétienne centrée sur l'expérience fait l'économie facile d'une saine théologie, d'une saine doctrine, l'économie de l'effort, notamment de l'étude sérieuse des Écritures. Il ne faut pas dans nos vies que l'expérience devienne la norme. La parole de Dieu ne doit pas être versée dans le moule de l'expérience pour son interprétation. C'est l'inverse qui doit être la norme. Une saine théologie doit entraîner l'expérience d'une saine piété. Saine théologie, saine piété, saine pratique. C'est John Stott qui citait ceci. Il faut se méfier autant d'une théologie sans piété que d'une piété sans théologie. C'est très très important. Il est si vite fait de dire l'essentiel c'est de ressentir. Et puis d'essayer de trouver ensuite dans les Écritures des versets qui corroborent notre expérience. Et alors là on est prêt à manipuler les Écritures. Et on peut faire Dieu menteur de cette manière. On se ment à soi-même, on ment aux autres, et on finit par faire de Dieu un menteur pour pouvoir justifier la valeur de nos expériences. C'était le premier point. Deuxième grand point, donc nous avons vu la tendance au subjectivisme. Nous voyons maintenant la tendance à la passivité. Tendance à la passivité, ceci ressort du vocabulaire utilisé au verset 18, où il est dit « tandis qu'il s'abandonne à ses visions ». Et en lisant cela, ça fait tilt immédiatement parce que c'est un mot qui est fréquemment utilisé sous la plume de certains auteurs qui racontent dans les livres des expériences. D'ailleurs, là-dedans, vous trouverez le mot « s'abandonner » à plusieurs reprises aussi. S'abandonner. S'abandonner laisse entendre trop facilement une capitulation de la volonté. Capitulation de la volonté. Il faut se livrer, il faut capituler, il faut s'abandonner. Et peu à peu même, on constate ceci, c'est que chez certains croyants, la volonté devient même une ennemie. On a peur de sa volonté, quand on en a d'ailleurs, et elle est peu à peu anesthésiée pour laisser place à la passivité et à l'écoute constante de ce que je ressens. Et ce qui est inquiétant à l'heure actuelle, c'est le problème de plus en plus aigu du manque de personnalité de bien des personnes à cause d'une atrophie dans le domaine de la volonté. Et c'est un problème très fréquent aussi chez les croyants. La volonté occupe beaucoup de place dans les Écritures. C'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous ait fait. Alors c'est vrai que le problème de la volonté, c'est qu'elle est polluée, au même titre que les autres domaines, que notre émotivité et que tous les autres compartiments, en quelque sorte, de notre vie personnelle. Et le caractère pervers de notre volonté se situe généralement, justement, au niveau de ce qu'on appelle la volonté propre. Ce fait que nous voulons être indépendants, que nous sommes de fervents partisans, tout petits déjà, du non. Hein, vous connaissez le non de la volonté propre du petit bébé. Non. Ceci est très fort, et puis ceci est fait sans phare, n'est-ce pas? Il le dit comme ça, c'est clair et net, sans bavure. Et vous savez aussi combien on peut créer de problèmes dans la vie d'un enfant lorsqu'on écrase sa volonté au lieu de la canaliser. Combien on peut lui construire un avenir d'adulte très difficile On peut arriver dans la vie d'adulte sans aucune volonté, complètement atrophié dans ce domaine, avec une mentalité de grenouille incapable de prendre position, de prendre des décisions, de se discipliner. Ce qui est un handicap terrible dans la vie chrétienne. Et ceci dit est dû à toutes sortes de causes de mauvaise éducation. Soit un autoritarisme qui écrase la personnalité. Alors il y a des personnalités qui sont suffisamment fortes pour ne pas se laisser écraser, alors elles avalent. Hein. Et puis à l'âge de l'adolescence, c'est le contraire qui se passe. Alors on vomit les parents et on s'installe dans des attitudes d'extrême parce qu'on a trop souffert. Et puis alors vous avez ceux qui se laissent complètement écraser et qui ont besoin d'être continuellement à la remorque, ils ont besoin que d'autres prennent des décisions pour eux et à leur place. Dans l'absence d'éducation actuellement, où les problèmes de ce genre, on voit, hélas, dans la vie chrétienne, combien cela coûte cher. Et une des activités du Saint-Esprit, dès la nouvelle naissance, c'est de devoir, en quelque sorte, je dirais, ressusciter chez certains croyants une volonté. Et Dieu le fait en demandant à celui qui a ce problème aussi de travailler avec lui. Dieu travaille avec nous. Parce que nous avons, même quand nous avons une volonté écrasée, nous savons très bien encore l'utiliser dans des domaines qui nous arrangent. Hein. Les seuls qui aient une volonté totalement annihilée, ce sont les personnes qui sont possédées par la puissance des ténèbres, ce qui est un cas tout à fait extrême, et qui nécessite donc une approche toute particulière, mais ce sont des situations extrêmement rares, en fait, de possession au sens absolu du terme et au sens biblique du terme. On remarque dans la vie du Seigneur Jésus que quand il y avait encore une once de volonté dans la vie d'un individu, il utilisait cette once de volonté pour travailler à partir de là au salut de cet individu. Regardez dans Jean au chapitre 5 l'histoire du paralytique de Bethesda, 39 ans, dans une situation où cet homme était devenu une véritable loque, il avait perdu tout espoir. Et pourtant, le texte nous dit que Jésus le regarde et qu'il lui pose une question qui nous semble ridicule. Pourquoi dire à une véritable loque qui a près de 40 années d'existence derrière elle où tous ses essais ont été réduits à néant, veux-tu être guéri? C'est extraordinaire. Il y a là à la fois le respect d'une personnalité, puis le Seigneur Jésus est celui qui n'éteint pas la mèche qui brûle encore un peu. Et à partir de cette petite lumière, cette étincelle de volonté qui est là, au fond du cœur et de la vie de cet homme, le Seigneur Jésus va agir. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup d'autres textes de ce genre dans les Écritures. Alors, bien sûr, chez des personnes qui ont une très forte volonté, parce qu'elles ont dû se battre peut-être dans leur adolescence, elles ont vécu des situations de souffrance où elles ont été livrées à elles-mêmes, alors le Seigneur est obligé de là de nous passer à la moulinette, hein, pour que nous apprenions à nous appuyer sur lui. Nous sommes différents les uns des autres. Et la thérapeutique du Seigneur est dépendante étroitement de la place qu'occupe notre volonté dans notre vie. Un homme de Dieu a écrit ceci: la volonté, l'élément essentiel dans la création de l'homme par Dieu. La volonté est la totalité de l'homme actif. Je ne peux pas renoncer à ma volonté, je dois l'exercer. La bataille est perdue ou gagnée dans les lieux secrets de la volonté devant Dieu. Alors le Seigneur va briser la volonté propre. Notre volonté va passer au laminoir de la croix pour être en quelque sorte dépouillée de toutes ses scories. Mais Dieu nous demande ensuite de la mettre vraiment à son service. Vous avez dans le Nouveau Testament, je crois l'avoir déjà dit au passage, un millier d'impératifs dans les évangiles et les épîtres. Un millier d'impératifs. Et vous savez que les impératifs ne s'adressent pas aux sentiments. Les impératifs s'adressent à la volonté. Christ nous commande d'aimer. Et moi-même, j'ai dû, au fil de ma croissance spirituelle, et je continue à l'apprendre, j'ai dû apprendre ce que c'était que l'authentique amour. Et que quand Dieu me commandait d'aimer, je ne devais pas attendre que mes sentiments changent. Quand Dieu me commande de pardonner, je ne dois pas attendre que mes sentiments changent. Vous savez que ça, c'est notre problème, même à l'intérieur d'un couple. À l'intérieur d'un couple, vous pouvez traîner pendant des semaines des problèmes de conflits conjugaux, simplement parce que vous dites, mais moi, je veux bien pardonner. Mais mes sentiments grondent dans l'autre sens pour le moment, et ce serait peut-être même hypocrite dans cet état de pardonner. Donc, quand mes sentiments auront changé, je vais aller dans cette direction. Vous savez, vous risquez d'attendre longtemps. En réalité, c'est un acte d'obéissance de la foi que de pardonner, qui nous situe sur le terrain de la volonté de Dieu. C'est une question d'obéissance. Seigneur, quels que soient mes sentiments, je veux me situer sur ton terrain à toi, sur le terrain de la lumière. Alors Seigneur, tu connais mes sentiments, mais tu m'invite au niveau de ma volonté à prononcer une parole de pardon. Seigneur, je te demande de t'occuper de mes sentiments. Mais je vais dans cette direction-là. Et le mieux, parfois, nous l'avons expérimenté à maintes reprises, c'est de joindre le geste à la parole. C'est peut-être d'acheter ce qui va faire plaisir au conjoint, parce que cela va nous aider à aller dans cette direction. Et combien de fois nous l'avons remarqué, le Seigneur s'occupe de nos sentiments une fois que nous avons fait le pas de l'obéissance de la foi. Il y a un livre évangélique qui s'appelle « L'amour est un sentiment qui doit s'apprendre ». C'est un titre ambigu. C'est vrai qu'il y a une part de sentimentalité d'amour, mais l'amour c'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. L'amour n'est pas seulement un sentiment qui doit s'apprendre. L'amour est acte de volonté. Vous connaissez peut-être cet extrait de l'histoire de Corrie ten Boom, lorsqu'elle proclamait le pardon de Dieu après la guerre en 1947-1948 en Allemagne. Et comment elle disait que nos péchés sont jetés au fond de la mer, et c'était une période très difficile en Allemagne. Et Dieu lui avait confié ce moment. Puis ce soir, ou après une réunion où elle avait parlé de tout son cœur sur ce thème, elle voit venir quelqu'un là dans son complet. Et subitement, elle est glacée d'horreur lorsqu'elle reconnaît un des anciens geôliers du camp de Ravensbrück. Et puis elle commence à feuilleter dans son agenda. Et puis elle le voit qui continue à s'approcher d'elle. Et qui lui parle et qui lui dit, sans la reconnaître, j'ai fait Ravensbrück, j'ai été geôlier, j'ai rencontré Jésus-Christ, je sais qu'il m'a pardonné. Mais ce que je voudrais savoir, puisque vous êtes passé à Ravensbrück, je voudrais savoir, est-ce que vous me pardonnez? Et puis lui tendez la main. Il lui tendait la main. Et Corrie ten Boom, qui a été cette femme de bon sens et d'équilibre de la foi, de faire monter cette prière, mais Seigneur, tu sais ce que je ressens. Tu sais ce qui se passe au niveau de mes sentiments. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est que tu me commandes de pardonner. Je veux pardonner. Alors Seigneur, occupe-toi, tu restes. Je veux tendre ma main, toi tu fais le reste. Et simplement comme une mécanique rigide, mais par désir de vivre au cœur de la lumière de Dieu dans sa pleine volonté, elle a tendu simplement sa main. Et elle raconte comment, alors que sa main empoignait la main de cet ancien geôlier, le Seigneur a rempli son cœur de nouveaux sentiments pour cet homme. Et ils ont vécu un moment tellement béni ensemble. Je sais que cela m'a beaucoup aidé personnellement, beaucoup aidé dans cette question du pardon, de réaliser que nous avions le pas de la foi à faire et de ne pas nous attacher d'abord à la béquille de nos sentiments. J'ai ici quelque chose de très très intéressant dans ce domaine. Quelqu'un a écrit dans un remarquable livre sur la relation d'aide, une grande partie de notre christianisme évangélique est centrée sur l'homme, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous avons besoin de revenir à une position chrétienne centrée sur Dieu qui enseigne ce que Dieu dit de faire, que vous en ayez envie ou non. J'ai parfois vraiment envie de manquer au travail. Mais si j'y réfléchis sérieusement, je sais que je dois aller travailler. Qu'est-ce qui doit contrôler mon comportement? Ce que je ressens ou ce que je pense? Je n'ai pas toujours envie d'obéir à Dieu. J'ai souvent envie de pécher. Je sais cependant ce qui est vrai. Que Dieu m'a racheté, que je lui appartiens, qu'il est mon Seigneur. Qu'est-ce qui doit me contrôler? Ce que je ressens ou ce que je sais être vrai? Et vous savez, je suis heureux que nous terminions par là. Parce que les grandes victoires pour l'avenir, nous les remportons dans ce camp de famille à partir de cette attitude. Certains d'entre nous peuvent attendre que tout leur tombe tout cuit d'en haut. Et ne pas se mettre en mouvement. Ne pas dire, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui clairement, mon ami, il faut que devant le Seigneur, tu prennes un certain nombre de résolutions claires que tu t'engages. Il faut que nous ayons des principes spirituels dans notre vie. C'est important. Daniel avait des principes de comportement. Il n'essayait pas d'agir un petit peu au coup par coup, au fur et à mesure que la situation se présentait, n'est-ce pas? Non, il avait développé des principes personnels de comportement à partir de principes des Écritures. Le principe de ne pas se souiller. On peut adopter, quand on est jeune croyant, le principe de ne pas épouser quelqu'un qui est en dehors de Christ. Le principe de ne pas se souiller dans un comportement sexuel qui va ensuite jouer sur la vie à l'intérieur du mariage. Et il y a dans un certain nombre de domaines, dans les Écritures, des principes importants. Il importe de les discerner et il importe de s'engager déjà dans sa volonté et dans son cœur. De manière à ne pas être pris au dépourvu. Et donc, si Dieu a parlé à quelqu'un ici sur l'importance d'une étude systématique, personnelle des Écritures, d'une lecture d'un bout à l'autre, d'un recentrage dans tel domaine, nous pouvons dire, bon, on va voir, hein, c'est bien ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est juste, mais enfin, on va voir dans les semaines qui viennent. Mes amis, c'est foutu, hein. C'est foutu, parce que dans les jours qui viennent, l'ennemi va peu à peu regagner du terrain. Parce qu'on est flasque, parce qu'on est mou, parce qu'on attend, on ne sait pas quoi. Ou bien on veut que ça change, on veut devenir un disciple de Christ vraiment consacré au Seigneur. Le combat va peut-être être difficile, mais on dit, Seigneur, c'est pas demain que je commence, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, devant le Seigneur, peut-être qu'on prend... Vous savez, les engagements écrits, ça compte. Hein? Moi, j'y crois. J'y crois de tout mon cœur parce que je l'ai expérimenté. Alors, bien entendu qu'on ne va pas le faire en serrant les dents une fois... Non. Seigneur, je compte sur toi, je sais que j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de la communion de l'Église, j'ai besoin de la vie de prière de mes frères, Seigneur. Mais j'ai un pas à faire, j'ai une résolution à prendre. Alors Seigneur, ben, maintenant, hein, je prends ma Bible et je commence. C'est important ceci. Et je voudrais le dire avec une solennité toute particulière parce que ces attitudes sont trop dans le vent. Il est des victoires pour demain qui se gagnent dans le présent. N'attendez pas. Conséquence néfaste de l'abandon. S'abandonner. Souvenons-nous que la puissance des ténèbres en profite car elle aime la passivité. La puissance des ténèbres aime le vide. Vous connaissez la petite histoire que Jésus a racontée sur cette personne qui est libérée de démons en quelque sorte. Hein. Alors elle nettoie la maison intérieure, elle la met en ordre, elle met peut-être un petit bouquet de fleurs ici et là, puis elle est vide. Et ensuite la puissance des ténèbres entre 7 fois plus forte et méchante qu'auparavant. L'ennemi aime le vide. Il s'introduit partout où il y a du vide. Et vouloir s'abandonner, c'est risquer de devenir le jouet de l'ennemi, une sorte de médium vivant de plus en plus au niveau du psychisme et court-circuitant ainsi volonté, intelligence, raisonnement. J'aimerais, je ne peux pas le faire, mais vous parlez de vous entretenir de la recherche de la volonté de Dieu dans ce domaine. Là aussi, j'ai tout un séminaire simplement sur comment apprendre dans nos vies à discerner la volonté de Dieu. Vous savez que c'est la question best-seller des questions évangéliques. Hein. Dans toutes les conventions, camps de jeunes, quand il y a une boîte aux questions, il y a dedans la question « Comment discerner la volonté de Dieu dans ma vie ?» C'est une question essentielle. Et vous savez que la Bible est prolifique dans ce domaine. Elle est prolifique en principes spirituels. Elle n'entre pas dans les petits détails, hein, est-ce que je dois fumer ou pas, etc. Mais il y a des grands axes, des principes spirituels fondamentaux à ne pas ignorer. Et souvent, dans le discernement de la volonté de Dieu, on confond les impulsions intérieures avec l'action du Saint-Esprit. Alors on se lance dans des directions en pensant que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, alors que ça peut être des impulsions venant de notre propre cœur, ou qui peuvent même nous être suggérées par l'ennemi. Plutôt que de vous raconter un tas de choses, j'ai sélectionné un passage du précis de Doctrine chrétienne de Jules-Marcel Nicole, qui dit ceci: à un moment donné, nous risquons toujours de confondre les impulsions qui nous viennent du Saint-Esprit avec celles que nous recevons de notre propre cœur. Les écarts désastreux de certains croyants qui s'imaginent en liaison directe avec le ciel et négligent l'Écriture au profit de leurs inspirations constituent un sérieux avertissement. Et Jules-Marcel Nicole met une petite note là: certains préconisent un moment de recueillement matinal où l'on fait d'abord le vide dans sa pensée, puis l'on note sur un bout de papier les idées qui surviennent en partant de ce principe qu'elles sont suggérées par Dieu. Je signale que c'est un des problèmes de Paul Tournier, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qui ont des côtés excellents. Mais c'était une de ces pratiques qui pose problème. Vous voyez, il faut le souligner, au passage, c'est intéressant. C'est très dangereux. J'ai entendu parler d'un fanatique de cette méthode qui se déclarait prêt à commettre un assassinat si l'idée lui en venait au cours de son heure quotidienne de recueillement. C'est un cas extrême. Pourtant, d'autres aberrations risquent de résulter, à titre moins exceptionnel, d'une semblable attitude. Comme aller demander quelqu'un en mariage dans l'heure qui suit. Parce que ça s'est passé. Ben, subitement, vous avez un nom qui monte, hein, et puis hop, vous foncez. Et puis vous vous mordez les doigts pendant toute votre vie durant. Aucune, en plus, il ajoute, il est donc très important de vérifier d'où viennent nos élans intérieurs, de Dieu, de nous-mêmes, ou à la limite peut-être d'un démon. Pour cela, notre table d'orientation restera toujours la loi écrite. Et vous savez, Jules-Marcel Nicole n'est pas homme à voir les démons partout, hein. Croyez-moi. Ainsi, nous servons le Seigneur dans un climat de liberté et non parce que nous nous trouvons en face d'une série de commandements. Mais nous avons toujours besoin des commandements explicites pour ne pas nous égarer dans des fantaisies déplorables. Moi, je pourrais vous donner un exemple de mon propre ministère. Nous avions pour saine habitude dans notre vie d'église, nous avions beaucoup de jeunes, de leur enseigner toutes ces questions du mariage, de la sexualité, du choix du conjoint, et surtout de les mettre en garde au niveau du choix du conjoint contre cette question de choisir un inconverti. Et puis, bien sûr, vous savez comment, hein, quand un jeune croyant veut s'engager pour le Seigneur, croyez-moi, c'est une des peaux de banane classiques. Nous avons vu défiler environ 500 jeunes dans nos camps internationaux dans le centre de la France, et c'est fou le nombre de jeunes qui se sont consacrés au cours de ces camps. Certains même se sont préparés au service du Seigneur et certains ont été cisaillés parce que dans les semaines qui suivaient le camp, il y avait cette peau de banane-là. Le diable sait que s'il gagne dans ce domaine, c'est tout un avenir qui est remis en cause. Alors un jour, beaucoup plus tard, j'ai eu la visite d'une jeune fille de l'église qui m'a raconté ceci parce qu'elle était sortie du problème et heureusement sans y perdre trop de plumes. Et elle m'a raconté ceci. Elle venait au culte tous les dimanches dans notre église, là à Paimpol, et notre chapelle donnait sur une grande rue très passante, en bordure de côte. Des milliers de voitures défilaient continuellement parce que c'était une zone très touristique. Et elle fréquentait un jeune inconverti. Elle connaissait les Écritures, elle savait ce qu'il en est. Et elle m'a dit elle-même, voilà ce que j'ai dit au Seigneur. Seigneur Jésus, je te mets à l'épreuve. Si ce jeune homme et le Seigneur que tu me réserves pour le mariage, alors je te demande une chose. Je ne lui en ai pas parlé. Dimanche matin, à l'issue du culte, que ce jeune homme passe en voiture devant la chapelle, là, sur cette rue passante, au moment même où je sortirai de la chapelle et où je serai sur le parvis de la chapelle. Donc, elle ne lui avait rien dit. Et elle m'a dit, vous savez, je suis sorti le dimanche à la fin du culte. Je suis arrivé sur le perron de l'église. Le jeune est passé en voiture. Comme si elle avait besoin de cela pour savoir quelle était la volonté de Dieu. La Bible est claire sur cette question du mariage. Pourquoi vouloir absolument des signes spéciaux alors qu'on sait qu'on est en train de violer un des grands principes spirituels bibliques dans les Écritures? Alors mes amis, quand on fait ça, ben, si on est malhonnête, Dieu peut autoriser la puissance des ténèbres à intervenir. Vous savez, ceci est dit dans les Écritures, ce n'est pas moi qui l'invente. Vous avez dans l'histoire d'Israël, au niveau d'un roi, cette situation qui a eu lieu. Comment l'Éternel a permis que la puissance des ténèbres intervienne pour être mensonge dans la bouche de prophètes à cause de la malhonnêteté d'un des rois d'Israël. Je crois que c'était Akab, si je me souviens bien. Et puis vous avez l'histoire dans Nombre 22 à 25 de Balaam, qui n'était pas un prophète, qui était un faux prophète, qui était un devin pour toutes sortes de raisons évidentes quand on analyse de très près le texte. Et qui aussi, parce qu'il n'était pas intègre, lorsqu'il a reçu les délégations venant de Moab, de la part de Balak, n'est-ce pas, le roi de Moab, parce qu'il n'était pas droit, parce qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Alors Dieu lui a dit, bon, je t'avais dit non, il lui avait dit non, d'abord tu n'iras pas pour maudire, puisqu'il n'était pas droit et qu'il a insisté. Finalement, il lui a donné le feu vert. Tu peux y aller. Et à peine, Balaam avait-il fait les premiers 100 mètres dans sa deux chevaux de l'époque, qu'il y avait un pneu crevé. Alors, il est sorti certainement déjà un peu secoué, il a changé le pneu, il a continué, hop, il a frôlé un mur un peu plus loin, une aile arrachée. Alors, il a continué quand même, et puis, subitement, il s'est trouvé en panne d'essence. Alors, il a réussi à trouver de l'essence, il a repris la route, et finalement, c'est le plancher de la voiture qui s'est effondré. Alors, il est sorti, n'est-ce pas? Et puis il a tapé sur le capot de la voiture. Quand même, c'est pas possible. Et alors sa voiture s'est mise à lui causer. Ça vous est jamais arrivé que votre voiture vous cause? Et que votre voiture... Moi, ça m'est arrivé. Que ma voiture me dise... C'est vrai que je l'entendais pas audiblement, n'est-ce pas? Mais je l'entendais dans mon cœur. Ma voiture qui me disait, mais écoute Maurice, tu trouves pas que c'est quand même bizarre qu'il y ait tant de problèmes les uns après les autres? T'as pas l'impression que tu devrais quand même... de t'asseoir un moment et puis prier le Seigneur, hein. Je ne suis pas baptisé, je ne suis pas membre de l'Église, mais j'ai un conseil à te donner. Prie un petit peu. Et puis le Seigneur de dire, oui, tu sais, tu t'es engagé sur ce chemin sans me consulter. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et heureusement qu'il y a eu toutes ces pannes dans la vie de cet homme. Mais quand nous sommes malhonnêtes, eh bien, si nous insistons, Dieu finit par dire oui. Alors, il va contrôler les circonstances, mais en attendant, nous allons perdre quelques plumes. Nous allons souffrir. Et ça peut parfois, hélas, aller très loin si nous persistons dans la malhonnêteté. Écoutez, il faut que je m'arrête, il y aurait trop à dire encore. Mais je crois que nous en avons vu déjà beaucoup dans ce domaine. Et je crois que nous avons vu des principes absolument essentiels. Attention donc aux textes bibliques isolés qui s'imposent avec force à l'esprit et auxquels on se soumet en violant les principes mêmes des Écritures. Et nous pourrions continuer ainsi à dire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Nous allons nous arrêter là, je crois que nous avons vu assez. Je vous recommande de lire ce livre maintenant. Et de le lire à la lumière de ce que nous avons vu ensemble. Vous l'avez peut-être déjà lu une fois, deux fois dans le passé. Bien, relisez-le maintenant. Relisez-le. Et vous verrez, c'est un livre qui, comme beaucoup d'autres livres, a fait du bien à certains croyants. Et c'est un livre qui en a démoli d'autres. Pourquoi ? Parce que tout est fonction de l'arrière-plan. Moi, j'ai vu quelqu'un faire une dépression, un fils de serviteur de Dieu même faire une dépression après avoir lu ce livre. Parce qu'il a voulu appliquer ce qui était là-dedans. Mais avec son arrière-plan, avec son manque de connaissances bibliques et d'équilibre personnel, ça a mal tourné. Alors vous verrez l'établissement d'une hiérarchie. Il suffit d'ailleurs de lire la préface. Hein. Et quand on sait que cet aumônier de l'armée américaine a fait de l'occultisme, et qu'il utilise dans son ministère d'aumônier le même langage que le langage utilisé dans certaines formes d'occultisme. Il s'est occupé beaucoup d'hypnotisme et de domaines très dangereux où il fallait être passif, faire le vide. Et on retrouve dans son livre exactement le même type de langage une fois qu'il sert Dieu. Et parfois, vous avez des choses qui vous font dresser les cheveux sur la tête. Moi, je pense simplement, page 57, « Si selon mon ancienne habitude, je commençais à réfléchir avant de parler, le résultat ne se faisait pas attendre. Immédiatement, je me crispais. Et ni la puissance, ni la présence de Dieu ne coulaient à travers moi. Le principe de m'abandonner et de laisser Dieu agir était valable. Tout ce que j'avais à faire était de m'abandonner et de me détendre dans la présence de Dieu, de laisser ma propre pensée de côté, d'ouvrir la bouche et de proclamer par la foi ce que Dieu me donnait de dire. Les paroles répondaient toujours à un besoin précis, etc., etc. » J'étais délivré de la contrainte de préparer, d'organiser, de rechercher et d'écrire le canevas de mes sermons. Moi, ça m'arrangerait, ça. Ainsi, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à la prière, à la lecture de la Bible. L'un n'empêche d'ailleurs pas l'autre. J'étais soudain rempli d'une énergie que je n'avais jamais connue auparavant. Mes amis, hein, si quelqu'un de ce genre est responsable d'une église locale, pendant 3 semaines, ça va bien. Pendant 1 mois, ça va bien. Mais ensuite, vous serez rassasié de ses messages, parce qu'il dit toujours la même chose. C'est tout. Jamais il ne vous permettra d'acquérir une colonne vertébrale dans votre vie spirituelle. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez tourner en cercle. Et si vous avez envie de grandir, vous aurez un tas de problèmes. Parce qu'on ne peut pas vivre de cette manière. C'est vrai que c'est ça. Ce qui est subtil, c'est que c'est vrai ce qu'il dit là. C'est vrai qu'il y a des situations où réellement Dieu nous inspire. Pourquoi ? Parce que là, au moment où je voulais me préparer, où j'avais mobilisé du temps, le téléphone a sonné et vraiment j'ai dû partir au secours de quelqu'un qui était en difficulté et je savais que c'était le plan de Dieu. Je l'ai fait, je dis ensuite, écoute Seigneur, tu vois, j'avais mobilisé du temps pour toi, tu sais que je voulais travailler sérieusement, utiliser toutes mes facultés, je veux être sérieux, ne pas faire n'importe quoi. Seigneur, tu sais aussi que j'étais dans ta volonté en faisant ce que j'ai fait. Alors, maintenant Seigneur, il faut que tu m'équipes, est-ce que tu veux bien le faire ? Dans ta grâce, et le Seigneur le fait. Il est dit que quand les tribunaux vont quand on sera livré injustement aux tribunaux, nous n'aurons pas besoin de faire une étude d'abord pour préparer notre défense en 3 points avec une introduction et une conclusion. Le Saint-Esprit nous donnera à l'heure même. Mais vouloir systématiser cela, c'est extrêmement dangereux. Alors on arrive à des aberrations dans ce livre. Quand dans une vision, le Seigneur Jésus s'agenouille devant lui, met sa tête sur ses genoux et lui dit « Non, je ne veux pas me servir de toi, mais je veux que tu te serves de moi. » Mes amis, mais à quoi on touche là ? Ou quand on se met à rire, vous avez un rire du Saint-Esprit d'un quart d'heure. Et où ce soi-disant homme de Dieu se réjouit, vit une espèce d'hilarité, et il discute avec le Seigneur, et le Seigneur lui dit, alors, tu es tellement heureux et plein de bonheur parce que les clous ont été enfoncés dans mes mains, et il y a toutes les souffrances de Christ les plus horribles qui défilent les unes après les autres. Mais vous vous rendez compte? Les souffrances de Christ ne peuvent pas provoquer ce type-là d'hilarité. Il suffit de lire le bouquin de John Stott, c'est autre chose que ça, n'est-ce pas? Alors le drame, voyez, de tels livres, c'est que vous avez un mélange insidieux d'éléments qui sont intéressants, qui sont bienfaisants. On n'a pas le droit de tout mettre en doute. Mais c'est écrit avec une imprudence et un déséquilibre qui peuvent vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal. Alors, relisez-le, j'ai toute une étude, on aurait pu faire une séance spéciale avec ce livre. Vous verrez, il y a l'échelle de spiritualité, à la fin, avec les différents degrés, il est question d'une échelle. Et par rapport à notre attitude vis-à-vis de la louange, on est plus ou moins haut sur cette échelle. Ce qui est contraire aux Écritures. Voilà, je m'arrête.